Victor Hugo, La légende des siècles, première série, La trompette du jugement. Je vis dans la nuée un clairon monstrueux, et ce clairon semblait au seuil profond des cieux, calme, attendre le souffle immense de l'archange. Ce qui jamais ne meurt, ce qui jamais ne change, l'entourait. À travers un frisson, on sentait que ce buccin fatal qui rêve et qui se tait, quelque part, dans l'endroit où l'on crée, où l'on sème, avait été forgé par quelqu'un de suprême avec de l'équité condensée en airain. Il était là, lugubre, effroyable, serein. Il gisait sur la brune insondable qui tremble, hors du monde, au-delà de tout ce qui ressemble à la forme de quoi que ce soit. Il vivait. Il semblait un réveil, songeant près d'un chevet. Oh, quelle nuit! Là, rien n'a de contour ni d'âge, et le nuage est spectre, et le spectre est nuage. Et c'était le clairon de l'abîme. Une voix, un jour en sortira qu'on entendra cette fois. En attendant, glacé, mais écoutant, il pense, couvant le châtiment, couvant la récompense, et toute l'épouvante éparse au ciel et sœur de cet impénétrable et morne avertisseur. Je le considérais dans les vapeurs funèbres, comme on verrait se taire un coq dans les ténèbres. Pas un murmure autour du clairon souverain, et la terre semblait le froid de son airain. Quoique là, d'aucun monde on ne vit les frontières, et l'immobilité de tous les cimetières, et le sommeil de tous les tombeaux, et la paix de tous les morts couchés dans la fosse, étaient faits du silence inouï qu'il avait dans la bouche. Ce lourd silence était pour l'affreux mort farouche l'impossibilité de faire un pli au suaire cousu sur son front par l'oubli. Ce silence tenait en suspens l'anathème. On comprenait que, tant que ce clairon suprême se tairait, le sépulcre, obscur, froid, roulis, béant, garderait l'attitude horrible du néant. Que la momie aurait toujours sa bandelette, que l'homme irait tombant du cadavre au squelette, et que ce fier banquet radieux, ce festin que les vivants gloutons appellent le destin, toute la joie errante en tourbillon de fête, toutes les passions de la chair satisfaite, gloire, orgueil, les héros ivres, les tyrans sous, continueraient d'avoir pour but et pour dessous la pourriture, orgie offerte aux vers convives. Mais qu'à l'heure du soudain, dans l'espace sans rive, cette trompette vaste et sombre sonnerait, on verrait, comme un tas d'oiseaux d'une forêt, toutes les âmes, cygnes, aigles, éperviers, colombes, frémissantes, sortir du tremblement des tombes, et tous les spectres faire un bruit de grandes eaux, et se dresser et prendre à la hâte leurs eaux, tandis qu'au fond du gouffre, au fond du rêve, blanchissant l'absolu, comme un jour qui se lève, le front mystérieux du juge apparaîtrait. Ce clairon avait l'air de savoir le secret. On sentait que le râle énorme de ce cuivre serait tel qu'il ferait bondir, vibrer, revivre l'ombre, le plomb, le marbre, et qu'à ce fatal glas toutes les surdités voleraient en éclats. Que l'oubli sombre, avec sa perte de mémoire, se lèverait au son de la trompette noire, que dans cette clameur étrange, en même temps qu'on entendrait frémir tous les cieux palpitants, on entendrait crier toutes les consciences, que le sceptique au fond de ses insouciances, que le voluptueux, l'athée, le douteur et le maître tombé de toute sa hauteur, sentiraient ce fracas traverser leurs vertèbres, que ce déchirement céleste des ténèbres fabrique dresser quiconque est soumis à l'arrêt, et que qui n'entendit pas le remords l'entendrait, et qu'il réveillerait comme un choc à la porte l'oreille la plus dure et l'âme la plus morte. Même ceux qui, livrés au rire, au vain combat, au vil plaisir, n'ont point tenu compte ici-bas des avertissements de l'ombre et du mystère, même ceux que n'a point réveillé sur la terre le tonnerre, ce coup de cloche de la nuit. Oh, dans l'esprit de l'homme où tout vacille et fuit, où le Verbe n'a pas un mot qui ne bégaye, où l'aurore apparaît, hélas, comme une plaie, dans cet esprit tremblant, dès qu'il ose augurer, oh, comment concevoir, comment se figurer cette vibration communiquée aux tombes, cette sommation aux blêves catacombes, du ciel ouvrant sa porte et du gouffre et enfin le prodigieux bruit de Dieu disant « Enfin !» Oui, c'est vrai, c'est du moins jusque-là que l'œil plonge, c'est l'avenir, du moins tel qu'on le voit en songe, quand le monde atteindra son but, quand les instants, les jours, les mois, les ans auront rempli le temps, quand tombera du ciel l'heure immense et nocturne, cette goutte qui doit faire déborder l'urne, alors, dans le silence horrible, un rayon blanc, long, pâle, glissera, formidable et tremblant, sur ces halles de nuit qu'on nomme cimetière. Les tentes frémiront, quoique le soit de pierre, dans toutes ces sombres camps endormis et sortant tout à coup de la brume où l'univers l'attend, se clairont au-dessus des êtres et des choses, au-dessus des forfaits et des apothéoses, des ombres et des eaux, des esprits et des corps, sonnera la diane effrayante des morts. Ô lever en sursaut des larves pêle-mêle, ô la nuit réveillant la mort, sa sœur jumelle, pensif, je regardais l'incorruptible errin, les volontés sans loi, les passions sans frein, toutes les actions de tous les êtres, haine, amour, vertu, fureur, hymne, cri, plaisir, peine, avaient laissé dans l'ombre où rien ne remuait leur pâle empreinte autour de ce bronze muet. Une obscure Babel y tordait sa spirale, sa dimension vague, ineffable, spectrale, sortant de l'éternel, entrait dans l'absolu. Pour pouvoir mesurer ce tube, il eût fallu prendre la toise au fond du rêve et la couder dans la profondeur trouble et sombre de l'idée. Un de ses bouts touchait le bien, l'autre le mal, et sa longueur allait de l'homme à l'animal. Quoiqu'on ne vit point là d'animal et point d'homme, couché sur terre, il eût joint Éden à Sodome. Son embouchure, gouffre où plongeait mon regard, cercle de l'inconnu ténébreux et hagard, pleine de cette horreur que le mystère exhale, m'apparaissait ainsi qu'une offre colossale d'entrer dans l'ombre où Dieu même m'est évanoui. Cette gueule, avec l'air d'un redoutable ennui, morne, s'élargissait sur l'homme, et la nature et cette épouvantable et muette ouverture semblaient le bâillement noir de l'éternité. Au fond de l'immanent et de l'illimité, parfois, dans les lointains sans nom de l'invisible, quelque chose tremblait de vaguement terrible, et brillait et passait, inexprimable et clair. Toutes les profondeurs des mondes avaient l'air de méditer dans l'ombre où l'ombre se répète. L'heure où l'on entendrait de cette âpre trompette un appel aussi long que l'infini jaillir. L'immuable semblait d'avance en tressaillir. Des porches de l'abîme, entre hideux, cavernes, que nous nommons enfer, puis, jeune âme, averne, bouche d'obscurité qui ne prononce rien, du vide où ne flottait nul souffle aérien, du silence où l'haleine n'osait à peine éclore, ceci se dégageait pour l'âme. Pas encore. Par instant, dans ce lieu triste comme le soir, comme on entend le bruit de quelqu'un qui vient voir, on entendait le pas boiteux de la justice, puis cela s'effaçait. Des vermines, le vice, le crime s'approchaient et, fourmillement noir, fuyaient. Le clairon sombre ouvrait son entonnoir. Un groupe d'ouragans dormait dans ce cratère. Comme cet organum des gouffres doit se taire, jusqu'au jour monstrueux nous écarterons les clous de notre bière au-dessus de nos fronts. Nul bras ne le touchait dans l'invisible sphère. Chaque race avait fait sa couche de poussière dans l'orbe sépulcrale de son évasement. Sur cette poudre, l'œil lisait confusément ce mot « riez » écrit par le doigt d'Épicure. Et l'on voyait, au fond de la rondeur obscure, la toile d'araignée horrible de Satan. Des astres qui passaient murmuraient « Souviens-t'en, prie !» Et la nuit portait cette parole à l'ombre. Et je ne sentais plus ni le temps, ni le nombre. Une sinistre main sortait de l'infini, vers la trompette et froid de tout crime impuni, qui doit faire à la mort un jour lever la tête. Elle pendait énorme, ouverte et comme prête à saisir ce clairon qui se tait dans la nuit et qu'emplit le sommeil formidable du bruit. La main, dans la nuée et hors de l'invisible, s'allongeait. À quel être était-elle? Impossible de le dire. En ce morne et brumeux firmament, l'œil dans l'obscurité ne voyait clairement que les cinq doigts béants de cette main terrible. Tant l'être, quel qu'il fût, debout dans l'ombre horrible, sans doute quelque archange ou quelque séraphin, immobile attendant le signe de la fin, plongeait profondément sous les ténébreux voiles, du pied dans les enfers, du front dans les étoiles.